Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Au lendemain de l'annonce de candidature, attendue, de François Grosdidier pour les municipales 2026 pour la ville de Metz, Bertrand Merz, tête de liste pour Un souffle nouveau pour Metz, qui réunit le Parti socialiste, les radicaux de gauche, la Convention et Place publique, a présenté son programme à la presse ce samedi. Un programme qu'il a souhaité clair, embrassant toutes les problématiques de la ville de Metz, et qui est le résultat d'un dialogue avec les habitants, mais également les acteurs de la vie sociale, économique, culturelle et associative de la ville. En préambule, il a pointé le bilan de François Grosdidier, une politique brouillonne, hésitante, sans vision, notamment pour la métropole, qui, selon Bertrand Merz, ne doit pas uniquement abonder les demandes des différentes communes, mais être un véritable outil stratégique pour l'avenir, observant que la métropole de Metz est désormais en panne, notamment sur l'aspect du développement économique. Mais l'un des principaux griefs adressés à François Grosdidier, c'est le peu de réponses face à la crise du logement. Avec l'aide de 6 de ses colistiers, Bertrand Merz a donc présenté les différents axes de son programme, qui se réunissent en 3 chapitres. Le premier, pour une ville à hauteur d'enfant, pour les jeunes, les familles et les seniors. Le deuxième, pour l'avenir par l'action de la métropole afin de faire exister Metz entre Strasbourg et le Luxembourg et agir en faveur des transports, de la transition écologique, du logement, du développement économique et de l'attractivité. Et enfin, avec les habitants, par une réelle démocratie participative et citoyenne, une gestion rigoureuse sur le plan budgétaire sans matraquage fiscal. La notion de démocratie participative est revenue plusieurs fois sur le sujet, Bertrand Merz insistant sur le fait qu'elle ne doit pas se résumer à un simple enregistrement des doléances des habitants, mais une véritable démarche où l'habitant deviendrait acteur, ce qui implique de l'information, du débat et le recueil des avis, y compris par un référendum si besoin. La notion de l'enfant et de la jeunesse plus généralement est également un fil rouge décliné sur différents aspects du programme. Concernant l'éducation, ont été annoncés un plan d'activité le mercredi proposé à tous les enfants, le renforcement de l'attractivité de la cantine allant jusque 1 euro par repas en fonction des critères sociaux, 1 million d'euros par an alloués à la rénovation des écoles et aux espaces végétalisés, le développement des rues aux écoles et le retour des résidences d'artistes dans les écoles qui va se doubler de résidences de sportifs. Pour la culture, on notera une cité musicale des enfants, un renforcement du soutien à la création culturelle et une autorisation d'utiliser l'espace public permanent, une basilique Saint-Vincent devenant un centre d'art numérique permanent et une médiathèque au centre-ville qui aurait des allures de tiers-lieu. Sur le plan associatif, le programme flèche également 1 million d'euros par an d'aides supplémentaires et l'allègement des démarches administratives des associations qui seraient liées à la ville par des conventions triennales et non plus annuelles. Côté santé et social, le renforcement d'une offre médicale, l'arrivée d'une mutuelle municipale, un service funéraire aux familles, un accompagnement renforcé des seniors et des places d'accueil. Bien entendu, la propreté n'a pas été éludée quant à la sécurité. Et quant à la sécurité, Bertrand Merz souhaite renforcer la prévention de la délinquance plutôt que tout axer sur le répressif. Pour ce qui est de la transition écologique, la volonté de s'appuyer sur un PLUI durable et vert, de renforcer l'image de Metz en tant que ville d'eau, que ce soit avec la baignade naturelle ou des terrasses flottantes, de grands axes de végétalisation des espaces publics, une priorité donnée à la rénovation et notamment énergétique, avec à côté le renforcement de l'UEM, que Bertrand Merz verrait bien devenir un cluster dans la maîtrise des énergies. Sur la question des transports, il a été évoqué le récent rapport de la Chambre régionale des comptes pointant un retard d'investissement sur Metz et sa métropole. Dans les axes, la poursuite de la ligne C du Métis vers Vallières, Bellecroix et Saint-Julien, une ligne D à étudier, le renforcement de navettes interquartiers et de parkings relais, la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, la réorganisation du stationnement en concertation avec la population. Une des questions centrales du programme, c'est de relancer le logement pour participer à l'attractivité du territoire, le but étant de créer 1500 logements par an pour rattraper le retard. Il est également question de recherche et d'innovation en ce qui concerne l'université, de favoriser les investisseurs et la création d'entreprises sur la métropole, d'accompagner les start-up et la co-construction, y compris sur l'investissement, sur des projets structurants avec les collectivités voisines et une stratégie à mener avec Nancy pour créer un pôle entre le Luxembourg et Strasbourg. Enfin, si Bertrand Merz a souligné que le maire de Metz avait vocation à devenir président de la métropole, il envisage une autre façon de gouverner, où le président de la métropole serait davantage un chef d'orchestre, dans une conception participative, plutôt qu'un autocrate. Pour Bertrand Merz, Metz a toutes les cartes pour son avenir. Nous l'écoutons.
Bertrand Merz, je suis la tête de liste de la liste Un souffle nouveau pour Metz, qui rassemble la gauche sociale, écologique et citoyenne.
Aujourd'hui, vous étiez là pour présenter le programme de la liste. Toutefois, vous avez commencé en parlant du maire actuel de la ville. et de sa candidature d'hier. C'était important de poser ça d'emblée.
Oh ben bien entendu, puisque on attendait évidemment l'entrée en campagne de François Grosdidier. On savait bien qu'elle allait arriver. D'une certaine manière, il était déjà en campagne, mais en campagne officieuse. Il est maintenant en campagne officielle. Il était donc normal de commencer par dire que, pour ce qui me concerne, en tout cas, je suis satisfait qu'il soit entré en campagne, puisqu'on va maintenant vraiment pouvoir nouer le débat démocratique qui doit exister à chaque élection.
Au-delà des différentes critiques liées au constat que vous avez fait sur la ville telle qu'elle a été gérée depuis 6 ans, vous avez pointé surtout un manque d'analyse.
Oui. On n'a pas l'impression que François Grosdidier suive un plan qui découlerait d'une analyse globale avec une stratégie d'ensemble, notamment s'agissant de la métropole. On a l'impression que la métropole est là essentiellement pour abonder les projets des communes qui la composent, mais elle n'a pas une vision stratégique qui lui permettrait ensuite de développer une politique qui préparerait l'avenir. Or, il me semble que c'est nécessaire. On vit dans un monde dans lequel maintenant les territoires sont en concurrence, et notamment les métropoles. Les métropoles, d'ailleurs, ont été pensées pour cela, pour qu'elles soient des attracteurs d'investissements, de fonctions métropolitaines supérieures. Et il est nécessaire que nous ayons une dynamique économique qui soit endogène. Nous avons des laboratoires de recherche, nous avons une université, nous avons des entreprises, nous avons des créateurs d'entreprises. Eh bien, il faut que la métropole, de concert avec la région et l'État, mettre en œuvre une stratégie qui va donner à Metz une dynamique économique nouvelle, notamment sur les nouvelles technologies, et je pense aux matériaux, je pense à l'énergie, évidemment au numérique. On a les possibilités, il faut les mettre en œuvre, on a des jeunes créateurs d'entreprises, on a des gens qui inventent, il faut qu'on les accompagne pour créer cette dynamique économique.
Y compris en créant des coopérations avec les collectivités voisines.
Oui, bien sûr, parce que ce qui est propre à la métropole de Metz, c'est qu'elle n'est pas très étendue. C'est une petite métropole en comparaison de d'autres grandes métropoles en France. Il faut que nous ayons maintenant un dialogue avec d'autres communautés de communes au nord et au sud de Metz pour qu'on puisse élargir notre champ d'abord de réflexion et ensuite d'action à cette échelle-là. Un exemple tout simple, il y aura bientôt un nouvel hôpital à Mézières-les-Metz. Eh bien, se posera la question du transport en commun pour aller sur ce site hospitalier. Ça doit se discuter évidemment à cette échelle-là.
Revenons plus particulièrement sur Metz. Vous l'avez dit en forme de conclusion, vous avez une philosophie de société en tête.
Oui, je pense qu'on est à un moment de l'histoire de société occidentale où le modèle qui était né après la Deuxième Guerre mondiale est maintenant en crise. Il ne fonctionne plus. Il faut inventer autre chose. Et cette autre chose, ça sera une société qui mettra l'humain au cœur de ses préoccupations et notamment les jeunes. Et c'est pour ça que notre programme, c'est une ville à hauteur d'enfants, d'adolescents, de jeunes. Ils sont notre avenir, on doit investir sur eux, si je puis dire. Et donc, repenser la ville en mettant l'humain et notamment la jeunesse au cœur de nos préoccupations, c'est aussi préparer l'avenir. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'il faut par exemple accompagner les jeunes créateurs d'entreprises, c'est aussi ça, c'est cette idée qu'on va préparer l'avenir avec eux, on va les aider à avancer.
Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs le projet que vous avez présenté il y a quelques jours de boucle à la fois sportive et culturelle ?
Oui, bah, oui, ça aussi, ça, c'est une autre façon de penser la ville. Les villes ont été pensées pendant longtemps autour du commerce et puis autour des automobiles. Hein. Depuis maintenant 60 ans, l'automobile est devenue la préoccupation de ceux qui organisent les villes. Eh bien, nous pensons qu'il faut mettre la qualité de vie au cœur de la ville, et notamment par le sport et par la culture. Et donc, on a imaginé une boucle qui longerait évidemment tous les endroits où il y a de l'eau, aussi les fortifications, les endroits de culture, etc. Et ce parcours sera à la fois un parcours sportif et un parcours artistique. Et donc, il ferait à peu près 9 kilomètres, il serait ouvert à toutes et à tous, et notamment aux jeunes, évidemment. Et donc, ça serait une manière de vivre la ville autour du sport, autour de la culture, pour donner envie d'abord de bouger, parce que la santé, c'est d'abord de bouger, de marcher, hein, c'est la première condition pour être en bonne santé, et puis de voir sa ville différemment. Donc ça aussi, c'est une façon globale de penser le centre-ville. On ne veut pas penser le centre-ville uniquement petit projet par petit projet, mais d'une manière globale, avec la question aussi de l'ensemble du plateau autour de l'hôtel de ville, de la cathédrale et du marché couvert, qui doit être repensé. Mais là, je l'ai dit, ça fera partie de ce que j'appelle la démocratie directe. Et donc, on demandera aux Messines, aux Messins de voter pour savoir s'ils veulent ou non le projet qui leur sera proposé. Je pense que François Grosdidier aurait dû faire la même chose pour la Serpentine. C'est quand même un projet de 5 800 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Il fallait demander s'il le voulait, s'il ne le voulait pas. Eh bien, si je suis élu et si je présente un projet de reconfiguration de tout cet espace autour de l'hôtel de ville, de la cathédrale et du marché couvert, où les voitures n'auront plus leur place, avec une végétalisation, etc., avec une planification des espaces, eh bien, je le soumettrai au vote direct des Messines et des Messins. Un dimanche, ils viendront voter, ils diront s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas.
Vous venez de l'aborder. Un des axes, c'est de relancer la démocratie participative sur la ville, de proposer des référendums sur différents sujets. C'est vraiment important pour vous.
Mais oui, parce qu'on vit une crise de la démocratie. Nos concitoyens se méfient, n'ont plus confiance. Ils pensent que la démocratie représentative, ça consiste pour eux à voter, puis après ceux qui sont élus font ce qu'ils veulent. Il faut maintenant que la société participe aux décisions des pouvoirs publics. C'est la société elle-même qui doit prendre son avenir en main. La démocratie participative, ça consiste à donner aux citoyennes et aux citoyens le même niveau d'information que les élus. Avec le numérique aujourd'hui, c'est possible, tout le monde peut savoir. Ça consiste aussi à leur demander d'en discuter entre eux dans des comités participatifs de quartier, de faire savoir leur avis. Et puis, s'agissant des grands projets, de voter. On leur dira, voilà, on a un beau projet, il a un coût, on vous donnera tous les éléments de compréhension du projet, techniques, juridiques, environnementaux, vous saurez tout. Et puis, c'est vous qui déciderez si on le fait ou si on ne le fait pas. Et je pense que c'est de nature à renouer le lien de confiance entre les pouvoirs publics et puis nos concitoyens.
À propos de coûts, certains projets ont été financés dans votre programme. Par exemple, la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Vous savez combien ça va coûter à la collectivité ?
Alors, la gratuité totale des transports...
Pour les moins de 26 ans.
Ça coûterait 15 millions d'euros, c'est trop cher. Pour les moins de 26 ans, c'est plutôt de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. C'est finançable. Et donc, je pense que puisqu'on veut mettre nos jeunes au cœur de notre projet de ville, il faut faire ça. Parce que pour eux, c'est pas seulement une question de facilité d'accès aux transports. C'est parfois une question de porte-monnaie. Et ça, il faut qu'on soit au rendez-vous de leurs attentes.
Ce que je voulais dire, c'est que vous avez fléché des moyens à donner, notamment pour les associations. Il y a un montant qui a été donné. Sur d'autres sujets, les montants n'ont pas été donnés parce que vous n'avez pas encore toutes les cartes financières en main.
Non, mais vous savez, tant qu'on n'est pas aux responsabilités, on n'a pas effectivement toutes les cartes en main. C'est logique. Bon, et une fois, alors j'ai déjà été maire, je sais comment ça se passe. Très rapidement, quand on prend les rênes de la ville en main, on découvre les dossiers précisément et puis on fait les arbitrages. Mais en tout état de cause, la ville de Metz, c'est 240 millions d'euros. La métropole, c'est 340 millions d'euros. En tout, ça fait 580 millions d'euros. Il y a des marges budgétaires, il y a des arbitrages à faire. Il faut les faire dans un sens ou dans un autre, mais il faut les faire. Et donc nous proposons de les faire dans le sens que j'ai indiqué.
Vous avez parlé de développer Metz en tant que ville d'eau. Pour autant, on a l'impression que c'est déjà ce qui est fait depuis quelque temps, déjà du temps de Dominique Gros, puis ça a été fait d'une autre manière par François Grosdidier. Qu'est-ce que vous voulez améliorer là-dessus ?
Il y a encore des choses à faire. Bien sûr, Metz est ouverte sur ses rivières. Mais il y a encore des choses à faire. Et cette boucle qui longerait notamment tous les sites où il y a de l'eau, ça consisterait aussi encore à les agrémenter, à les enjoliver, à faire en sorte que on puisse profiter, notamment pendant la période estivale, de tous ces beaux endroits où, vous savez, il y a beaucoup de nos concitoyens qui partent pas en vacances en été. Il faut qu'il y ait dans Metz plusieurs endroits où on se sente comme en vacances. Ça fait aussi partie de l'agrément de la vie.
Sur certains points du programme, on a l'impression aussi que vous reprenez la ville telle qu'elle était du temps de Dominique Gros, et notamment, je pense à Blida, le dossier de Blida, qui devrait reprendre l'orientation qu'elle avait initialement.
Vous savez que l'abandon du projet Blida par la municipalité actuelle, ça a coûté 900 000 euros de dédit. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Et pourtant, il me semble que c'était un beau projet, parce que c'est un projet qui voulait associer à la fois la créativité artistique à la création d'entreprises. Un endroit, vous savez, aux États-Unis, ils ont cette force, ils arrivent à mettre ensemble des gens qui, en partant d'idées, créent des entreprises qui deviennent des multinationales. Et donc, il faut qu'on ait un endroit comme ça où ça bouillonne, où il y a des créateurs, des artistes, des gens qui inventent. Et à un moment donné, je suis persuadé qu'il va en sortir quelque chose de créatif et d'innovant et qui va produire une dynamique. Et donc, c'était un beau projet. Oui, j'ai envie de le reprendre.
Et je pensais également aux résidences d'artistes, à nouveau dans les écoles, mais qui seraient doublées d'une résidence de sportifs.
Et oui, parce que tous ceux qui sont parents savent la difficulté que l'on a à arracher nos enfants aux écrans. Et donc il faut aider nos gosses à découvrir ce que c'est que la création artistique, qu'est-ce que c'est aussi que le sport, parce que même s'ils font du sport à l'école, des fois on a du mal. Dire que dans chaque école, il y aura associé un artiste, un créateur, et puis un sportif ou même un club sportif, c'est aussi... l'idée qu'on va leur donner les moyens de découvrir autre chose. De la même manière, je voudrais qu'il y ait une médiathèque de centre-ville qui serait plus qu'une médiathèque, qui serait un troisième lieu auquel seraient associés des créateurs, des artistes, des écrivains, des peintres, des cinéastes, des journalistes aussi par exemple, et qui viendraient régulièrement pour des événements, pour donner envie aux jeunes de découvrir ça. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie parce que nos enfants sont tellement captés par les écrans qu'ils perdent leur capacité de concentration qui pourtant est essentielle à l'apprentissage. Il faut que la collectivité, avec les moyens dont elle dispose, mette tout en œuvre pour aider les familles à faire en sorte que nos gosses ils aient envie d'autre chose que des écrans. Et ça passe par tous ces projets que nous proposons.
Alors votre programme contient une centaine de points, une centaine d'orientations. On ne va pas tous les faire, on va inviter les médecins à se pencher sur votre programme. J'en retiens juste un qui m'a interpellé, l'idée de faire une médiathèque de centre-ville. Ça a déjà été pensé et pour autant la DRAC a posé son veto en disant non, Pontifroid, c'est le centre-ville.
Alors d'abord, la médiathèque de Pontifroid, c'est pas lui faire injure qu'elle est... que de dire qu'elle est vraiment vieillissante et qu'elle ne correspond plus aux attentes de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors après, le site de Pontifroid, il pourrait servir à d'autres choses, mais il me semble que une simple médiathèque, je comprends quelles peuvent être les objections de la DRAC. Mais ce que nous voulons faire, c'est plus que ça. C'est une médiathèque troisième lieu qui associerait, donc je l'ai dit à l'instant, des artistes, des intellectuels, des créateurs, etc. et qui serait un endroit où la jeunesse se retrouverait. Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et donc je ne doute pas que j'arriverai à convaincre la DRAC de l'intérêt de ce projet, et il faut que ça soit vraiment en centre-ville. Pontifroid, oui, c'est le centre-ville, mais enfin bon, on peut être plus au centre-ville qu'au Pontifroid.
Aujourd'hui, c'est un gros marqueur de votre campagne. Quels sont les prochains jalons ?
Je crois que le prochain... Alors, on va encore faire des conférences de presse thématiques sur des sujets où on va être plus précis, par exemple sur le thème de la sécurité, mais le prochain grand rendez-vous, ça sera la présentation de la liste dans 15 jours.
C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.